midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer qu'il y a en France des gens qui innovent, qui créent, qui maintiennent l'emploi et les savoir-faire. Gros plan aujourd'hui sur l'eau minérale notamment. Et vous allez voir qu'à côté des poids lourds du secteur, il y a encore de la place pour innover. Elle fête, elle, ses 30 ans cette année. Son nom s'écrit en trois lettres, MMV, et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis si vous avez du mal à vous endormir le soir, une application, ça s'appelle Dodo avec un W à la fin, c'est la solution pour vous aider à trouver le sommeil. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole. Venez nous dire si vous buvez de l'eau du robinet ou si vous l'achetez plutôt en bouteille, Anissa.
Oui, venez nous dire si vous la préférez pétillante ou plate, on vous écoute. Venez nous parler de votre eau. Sur Europe 1, c'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. Et Twitter pour tous vos messages, vos questions, vos témoignages, hashtag Europe 1.
Et oui, c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie, cette journée mondiale de l'eau, de nous intéresser à celle que vous consommez. En dehors des géants, vous allez voir qu'il y a encore de la place pour de nouvelles marques, pour des innovations aussi. Pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth est là. Bonjour Elisabeth.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Eric Léandri, fondateur de Quant. Bonjour Eric.
Bonjour.
L'eau, c'est vital pour nous tous. Il faut en boire au moins 1,5 litre par jour. Et chacun, évidemment, a ses préférences. Certains, pour des raisons économiques, choisissent de ne consommer que celle qui coule au robinet. D'autres préfèrent acheter de l'eau en bouteille. Et en dehors des plus connus, vous allez voir qu'il y a de nouvelles venues sur le marché. Bonjour Michel Scotto.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de la Société des eaux minérales du Pays d'Aix-en-Provence. Votre nom dit d'ailleurs peut-être quelque chose aux entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, parce que vous aviez créé en 80, j'espère que j'ai les bonnes dates, la société San Marina, c'est bien ça?
Tout à fait, en 81, j'ai créé la marque San Marina dans les chaussures, mode, moyen haut de gamme, et je l'ai maintenue, développée et cédée en 80.
Oui, et alors...
En
2004, ouais. vous arrivez, comment, dites-moi, à passer du monde de la chaussure à l'eau?
Eh bien, c'est peut-être un peu de curiosité d'une part. D'autre part, c'est des gens qui m'ont mis en relation au niveau de la ville d'Aix. C'était le premier adjoint de la ville d'Aix, un ami, qui m'a dit, toi qui es entrepreneur, je te présente une personne qui est spécialisée dans les forages et dans la géologie, notamment du pays d'Aix, et qui a dit qu'il allait faire revivre l'eau minérale d'Aix-en-Provence.
En fait, c'est une eau qui... Aix est connue, effectivement, au départ pour ses termes.
Ces termes, et en même temps, son eau minérale a existé aussi quand même. Donc c'est moins connu, Aix, pour l'eau minérale que les termes, bien entendu, parce que les termes, ça date depuis vraiment très très longtemps. Ça a démarré en 118 avant Jésus-Christ avec le général Sextus, qui avait créé Aqua Sextia, qui veut dire les sources sextiennes. Et qui a donné ensuite vie à la ville d'Aix-en-Provence.
Et c'est devenu Aix-en-Provence. Et au fameux cours Sextus.
Et au fameux cours Sextus qui existe, bien entendu.
J'en ai quelques souvenirs. Vous arrivez donc dans cette nouvelle aventure, vous rencontrez des gens qui savent faire. Comment est-ce que vous faites pour obtenir les agréments?
Alors là, la personne qui savait faire a trouvé le premier agrément parce qu'elle a demandé à la préfecture de Marseille un arrêté préfectoral de forage expérimental pour trouver l'eau minérale du pays d'Aix. Et il a obtenu, on a fait un forage, cette personne-là a ensuite fait le forage et malheureusement est décédée par la suite. Moi je ne m'occupais pas trop de cela pendant tout ce temps, mais lorsqu'il est décédé, j'ai repris les choses en main et avec deux personnes, un ingénieur des mines et quelqu'un qui est sorti des études commerciales, à tous les deux et moi-même, nous avons demandé l'agrément d'eau minérale du pays d'Aix à la préfecture de Marseille. Alors ça a duré 3 ans.
Ouais, on va sauter quelques étapes pour en venir à cette eau qui est avec nous. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez la voir. Elle s'appelle 808. Évidemment, il y a une raison si elle s'appelle 808.
c'est évident. Alors 808, c'est le point de captage qui est à 808 mètres de profondeur. Et on a choisi comme marque 808 parce que le 8 étant le chiffre porte-bonheur des Asiatiques, nous apercevons un marché très important dans cette zone.
Alors, c'est une eau qui vient tout juste de sortir. Ça fait 3 semaines hein, que vous avez commencé la commercialisation.
Tout à fait.
Que dit notre coach de cette aventure?
Ben moi, j'aime beaucoup les eaux. Hein. En Corse, on a pas mal sous la main. Oui. Moi, j'avais juste une question. C'est, vous prenez 808, j'aime bien le fait que ce soit la zone de captage, permet de donner une idée d'à quel point vous êtes descendu bas. Mais pourquoi parler des Asiatiques? Vous avez commencé à vendre autour de chez vous ou... Vous avez juste prévu les Chinois et puis c'est tout.
Vous avez tout à fait raison. Mais comme le peuple asiatique est très nombreux, comme on le sait tous, c'est une cible qu'on s'est fixée. Mais bien entendu, vous avez bien fait de le souligner, c'est la Côte d'Azur qui nous intéresse primordialement. On veut être les leaders, autant que ce soit possible, autour de chez nous. Parce que vous avez raison que les frais de transport... Et tout cela étant des éléments très discutés aujourd'hui pour la taxe carbone et tout. De ce fait, nous voulons nous développer grandement sur toute la Côte d'Azur.
Elisabeth, il se porte comment le marché de l'eau en bouteille aujourd'hui en France?
D'abord, c'est un marché très important. Il est estimé à plus de 1 milliard d'euros. Il y a 39 eaux de source et 80 eaux minérales en France. Et là, pendant que nous parlons, figurez-vous que 175 bouteilles sont vendues chaque seconde en France.
Vous espérez en vendre combien justement, Michel Scotto, de ces 808? Vous avez déjà des objectifs?
Oui, on a des capacités déjà. L'usine que nous avons mis en place peut produire 45 millions de bouteilles par an. Bien entendu, nous n'avons pas ces objectifs pour la première année. On pense en produire 6, 8 millions, quoi, pas plus. Et après, progressivement, au bout de 5, 6 ans, arriver à la cadence maximale.
On reste ensemble, on continue à parler de l'eau aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
De l'eau en bouteille issue du robinet et dans un contenant en verre, c'est possible, vous allez le voir. C'est un Français qui a inventé le système et ça s'appelle Castalli. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. On s'intéresse donc à ceux qui font des eaux minérales françaises. Vous les découvrez sur Europe 1. Vous les découvrez aussi si vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr, Raphaël.
Oui, vous ne voulez peut-être pas investir chaque semaine dans des packs d'eau. C'est trop lourd, c'est trop cher aussi. Vous essayez de bannir le plastique, de privilégier par exemple les bouteilles en verre. Votre solution, c'est peut-être l'eau du robinet. Mais pour vous débarrasser de ces impuretés, eh bien, sachez qu'il existe des systèmes, y compris des systèmes français. Bonjour Thibault Lamarck.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le fondateur et président de Castalli, avec un E, je le précise. Fondé en 2011, je crois que vous avez toujours été passionné d'eau.
Alors j'ai démarré ma carrière chez Veolia Environnement, oui, qui est le plus gros producteur d'eau potable du monde. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'eau, donc sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Donc effectivement, j'ai une certaine passion pour l'eau.
Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un déclic. C'est quand le système SodaStream, que certains connaissent peut-être ici, arrive en France, que vous vous dites il faudrait faire pareil, mais pour l'eau et peut-être pour les restaurants. Racontez-moi, qu'est-ce que vous imaginez à ce moment-là?
Mais à partir du moment où on consomme des bouteilles d'eau, là d'ailleurs je vois sur le plateau des bouteilles en plastique, moi j'avais un sujet, c'est que je culpabilisais d'avoir du plastique. Et si SodaStream m'a permis en fait de réduire mes déchets, et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais l'appliquer dans les restaurants. C'est comme ça que l'idée a pris.
Et alors votre ambition à ce moment-là, elle est double, à la fois faire baisser la facture et réduire effectivement le plastique, c'est ça?
Tout à fait. Alors je ne connaissais pas du tout le monde de la restauration. Moi j'ai un profil financier et donc j'ai découvert le métier de la restauration. Les chefs font souvent beaucoup de marge avec l'eau minérale, donc... on a trouvé, nous, notre segment dans la bistronomie et la gastronomie, avec des chefs finalement qui sont chez eux, qui peuvent proposer les produits qu'ils veulent, qui vont souvent des produits bio, des produits de saison. Mm-hmm. Et donc finalement, Castalli accompagne leur démarche qualitative.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la machine que vous avez proposée, notamment aux restaurateurs? Il y a quelque chose qui permet de filtrer justement l'eau du robinet, d'enlever les fameuses impuretés?
le principal, enfin ce que reprochent les Français ou en tout cas dans les pays, ce qu'on peut reprocher à l'eau du robinet dans les pays occidentaux, c'est son goût chloré. Et donc les filtres Castalli viennent retirer en fait le goût du chlore et les éventuels résidus de métaux lourds qui viennent des canalisations. Ça, nous, on le retrouve, enfin, on a le même système de filtration dans les hôtels et les restaurants, mais depuis fin 2015, on a démarré sur le secteur de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a les trois quarts de la croissance qui viennent de l'entreprise. Donc on équipe des sièges sociaux où on vient remplacer en fait les bouteilles en salle de réunion.
Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau ce système ? Moi, je connaissais par exemple, et je pense que beaucoup autour de la table connaissent aussi, la fameuse Brita qu'on a à la maison parfois. C'est un peu le même genre de système ?
Alors nous, on s'adresse,
sauf que c'est français.
On fait que du B2B. Et Brita, là, c'est, ce dont vous parlez, c'est une carafe filtrante.
Ouais.
Je connais très bien Brita. Le Castalli, on fabrique des machines, des filtres.
On n'est pas sur le même public, on est
système,
d'accord.
Et dans les entreprises, finalement, la différence avec l'offre qu'on avait en restauration, c'est qu'on a fait redesigner la machine par un cabinet de design qui s'appelle Helium Studio. Je leur passe le bonjour aujourd'hui.
Oui.
Avec vraiment un design en rupture, c'est Made in France ou Italie. Donc, c'est des vrais produits nobles et qualitatifs. Donc, versus toutes les petites fontaines chinoises que vous pouvez voir un peu partout.
Que dit notre coach, Eric Léandre ?
Non, moi, j'en dis que du bien. Hein. Comme je le dis, j'aime beaucoup l'eau minérale, l'eau de source. Mais quand je l'ai juste à côté de chez moi, et puis sinon je trouve l'idée géniale, combien ça peut produire de bouteilles par jour pour une entreprise ? Parce que le problème qu'on a, c'est que tout le monde boit, et quand tu es 100 ou 160, voilà, là je viens de me faire livrer presque une tonne d'eau de Zilli. Ça ne m'amuse pas de la déplacer jusque-là.
Zilli qui est l'eau de l'eau de Corse. Hein.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus intelligent ? C'est combien de bouteilles par jour ?
Alors on a différents types de machines. Aujourd'hui on est capable de faire à peu près tous les volumes possibles, du petit bureau de 10 personnes au gros bureau de 4 ou 5 000 personnes. On a même une autre activité qui ne s'appelle pas Castalli, où on fait des fontaines sur mesure pour la Haute-Paris, qui est le producteur d'eau potable de la ville de Paris. On fait des fontaines publiques pétillantes, donc vous en avez une vingtaine dans les rues de Paris. Ça s'appelle La Pétillante, mais c'est Castalli qui est derrière ça.
Mais vous avez aussi, ça c'est nouveau je crois, des fontaines connectées. C'est quoi la fontaine connectée ?
Alors,
tout est connecté aujourd'hui finalement. C'est pour ça que je pose la question.
La fontaine connectée, en fait, elle va nous permettre de remonter en permanence de l'information et de faire de la maintenance prédictive.
D'accord.
Sur nos machines. C'est une première mondiale. Ça n'a jamais été connecté, une fontaine. Ça nous permet d'être meilleurs sur le service pour nos clients. Nous, on est vraiment une société de service où on vend un système, on loue un système qui permet de remplacer l'intégralité des bouteilles d'eau chez nos clients.
Elisabeth, on est en train de parler de l'eau. On voit bien qu'il y a des innovations en ce qui concerne l'eau du robinet. À part ça, il y a quand même, quand on parle d'eau, des géants dans ce secteur de l'eau.
Il y a des géants, comme vous dites, il y a des leaders. Hein, évidemment, on pense à Danone. Vous avez aussi Roxane, le groupe Alma, par exemple, qui ont la marque Cristalline. Mais ils ont des tas d'autres eaux que nous connaissons, comme Châteldon, Thonon, Saint-Armand, Montcalm. Et il y a beaucoup d'eaux françaises qui sont parties chez nos voisins suisses, chez Nestlé Waters, comme par exemple Vittel, Perrier, Trex ou encore Épar. Donc c'est un marché qui est partagé par trois gros géants.
Et puis on est surtout, on en a déjà un petit aperçu, très fort en eau régionale.
Ah ben oui, par exemple, tiens, allez, à Bordeaux, pas une dégustation de vin dans le Bordelais, ni un restaurant de la côte aquitaine où ne débouche pas une abatie. Vous connaissez peut-être, non ?
Oui, évidemment.
Ah,
bah
heureusement,
évidemment.
Elle est très bonne. Les Corses, tiens, ça c'est sûr, vous connaissez. Eric aussi se désaltère avec Orezza. Vous avez Valcrin, qui est la boisson des randonnées dans les Alpes. Sainte-Baume, sur l'étape provençale. Ou alors Jolival, sur celle du Poitou-Charentes. Ou encore au pied des Pyrénées, la source Augeu. Elle aussi donné naissance à l'une des plus belles réussites industrielles de la région. Et toutes ces eaux régionales, on bouscule, elles titillent les géants. Certaines d'entre elles se sont fait acheter par des grands groupes, comme par exemple Vattviller dans le Haut-Rhin en 2004. La société est rachetée par le groupe belge Spadol.
Dites-moi Thibault Lamarque, ça marche bien l'eau aujourd'hui ? On l'a vu, il y a des chiffres qui sont en croissance. Vous l'avez dit, vous avez la possibilité de vous adresser aujourd'hui aux restaurants et aux entreprises. Et depuis un an, je crois que vous avez senti l'engouement dont on est en train de parler, puisque vous avez doublé votre croissance. Donc ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vous demander vos produits et que vous êtes obligé de suivre derrière.
En tout cas, aujourd'hui, il y a un momentum climat. On ne peut pas continuer à consommer comme on a consommé hier. Il y a un continent de plastique au milieu de l'océan. Donc, je pense que les citoyens, le consommateur est en train de changer.
Prise de conscience.
Oui, exactement. Donc, nous, on vient répondre à ce besoin, de moins de plastique, moins de déchets, moins de transport.
Eric.
Et il y a eu en plus une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, comme quoi quand on boit de l'eau en bouteille en plastique, aujourd'hui il y a aussi des micro-résidus de plastique qui terminent dans nos estomacs. Et donc résultat, ça va très loin, ça va même jusque là. Et c'est pour ça que je suis très content de voir la 808 en bouteille en verre. Et que je suis très content de ton idée de bouteille en verre aussi sur l'idée globale.
On va en parler justement d'ici quelques minutes de ces fameuses bouteilles en verre. On reste ensemble et on parle d'eau aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On l'a dit, l'eau, les eaux ont tout un goût. C'est pour les faire découvrir, comme le fait un œnologue avec le vin qui a été créé Eau du Monde. À tout de suite.
Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir ces eaux minérales françaises, ces innovations françaises en matière d'eau. Et vous êtes déjà très nombreux à poster vos messages. Il y a des questions, il y a des réactions, il y a des témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et vous pouvez également poser vos questions et réagir au 39-21, c'est le standard d'Europe 1.
Ouais, je suis certaine que si je fais un petit tour de table en demandant quelle eau vous buvez chez vous, on a tous des marques différentes à la maison. C'est comme pour le vin finalement. Certains vont aimer les Bordeaux, d'autres les Bourgogne. Et bien avec l'eau, c'est exactement pareil. Bonjour Laurent David.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur
Merci
Europe 1.
Merci de m'accueillir.
Vous avez fondé Eau du Monde en 2003, tout seul, alors à Bordeaux, dans l'un des pays du vin. Et à l'époque, vous travailliez justement sur le vin avec l'envie de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est comme ça que vous commencez à vous intéresser à l'eau.
Absolument. La démarche est une démarche de goût, de diversité. De richesse. Nous avons des sources fabuleuses en France et dans le monde entier. Et c'est effectivement la même démarche que j'ai eue sur le vin et après sur l'eau. Ce que j'ai démarré après mes études chez Nestlé Waters, on en parlait tout à l'heure. Donc j'ai toujours eu dans un coin de ma tête ce besoin de diversité qu'on n'avait pas, puisqu'il y a une dizaine d'années, c'est encore vrai aujourd'hui, mais de moins en moins, on avait du Danone ou du Nestlé. Et un peu de Roxane avec Châteldon et un peu aujourd'hui de Tonon. Pour moi, l'offre est pauvre. Si je n'aime pas la Vittel, si je n'aime pas la San Pellegrino, si je ne l'apprécie pas, qu'est-ce que je fais? Les cartes de vin sont très étendues. On peut avoir des cartes de café, des cartes de thé. Pourquoi l'eau serait le parent pauvre de la table, ce qu'il est toujours aujourd'hui?
Ça veut dire que quand vous êtes allé démarcher les restaurants, vous vous êtes aperçu que sur les cartes, il y avait une, deux, peut-être trois eaux à proposer aux clients.
Ou parfois
peut-être
un seul groupe, Danone investit un secteur.
Ils avaient le monopole dans des établissements.
Exactement. Parce qu'en fait, il y a des incentives, il y a un accord avec le restaurateur. Donc je ne trouve pas ça très sain. Et moi, ce qui m'importe, c'est vraiment avoir accès à des eaux différentes.
Alors du coup, vous avez commencé à chercher, à faire du repérage. Petit à petit, vous découvrez des nouvelles eaux à travers le monde entier. Comment on fait pour goûter l'eau? C'est comme pour le vin? Il y a une dégustation possible de l'eau?
Il y a des dégustations possibles. Il y a même des concours de dégustation. Parce que j'ai participé à monter un concours qui s'appelle l'AFPA à Paris. On remet les prix le 1er avril, à l'école Ferrandi d'ailleurs. Donc il y a des dégustations d'eau à l'aveugle.
Qu'est-ce qu'on goûte alors? Quels sont les mots-clés quand on fait une dégustation
alors,
d'eau?
Ça peut être similaire au vin, mais tout à l'heure on en parlait en loge. Mais vous pouvez avoir un goût citronné sur une eau pétillante. Vous pouvez avoir des goûts métalliques. J'aime bien, j'ai certaines eaux qui résonnent en moi, où vous goûtez une eau plate, par exemple, qui va vous donner un éclat plus spectaculaire en bouche, donc une certaine émotion. Alors c'est très intellectuel, c'est plus dur que le vin, mais ça mérite conscience.
La robe est toujours la même, hein, de toute façon.
Oui.
Elles sont toutes de la même couleur, on est d'accord?
Oui. À peu près.
À peu près. J'entends déjà des gens dire « Attendez, mais c'est sûrement du business, c'est pas forcément différent, c'est parce qu'il fallait investir le marché de l'eau. » Vous dites au contraire, il y a vraiment des différences et il faut apprendre à les connaître?
Absolument, c'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, je peux prendre la parole donc pour effectivement... amener cette diversité, ces différences de goût.
Elisabeth, Je crois que c'est un secteur que vous connaissez bien.
Ah oui, moi j'adore. J'adore. J'ai le fait de goûter les différentes eaux, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable parce que plus on en goûte, plus on perçoit les différences.
Ça veut dire qu'on peut éveiller son palais.
On peut éveiller son palais à l'eau et ça, c'est quand même extraordinaire.
Et c'est encore plus spectaculaire et plus immédiat sur les eaux gazeuses. Vous allez avoir des bulles fines, des grosses bulles. Les eaux sont chargées en minéraux qui sont intéressants. Pour la santé aussi. Mmh. On parle de bicarbonate dans des eaux gazeuses, c'est excellent pour la digestion.
Tout à fait.
Donc il ne faut surtout pas les enlever. Et c'est la richesse. Et il faut varier les plaisirs, surtout pour goûter différentes eaux, donc pour s'ouvrir le palais.
Donc on est en train d'avoir un nouveau métier finalement. Que dit notre coach, Eric Léandre ?
Moi je le crois sur parole. Hein. La meilleure eau du monde, je la bois dans mon village directement à la source, juste à côté de chez moi, et je la bois directement.
Non, elle coule de là. La meilleure, elle est dans notre village.
Quelle est votre eau ?
Elle coule de la montagne qui donne l'eau à Saint-Georges.
Donc, nous, voilà, c'est la fontaine de Saligacherie.
La mienne est meilleure. Et le problème n'est pas là, c'est que c'est vraiment un autre goût et je le sens immédiatement. Et pareil pour les différentes eaux, et je vais prendre des fois celle de Fidji ou d'autres, mais je vous conseille, je suis obligé, j'ai un petit clin d'œil. Quand mon frère a dessiné la bouteille de Zilia en verre, allez regarder, en plus elle est magnifique. Mais en dehors de ça, j'ai un truc pour vous, ma question est les coûts, les prix et la façon de les vendre. Parce qu'au final, l'eau aujourd'hui, ça vaut très cher dans les restaurants. C'est peut-être le vrai bon moment d'essayer des eaux différentes et géniales, non ? Vous n'avez pas ça ?
Alors, ça coûte très cher parce qu'il y a des marges. On essaie de contrôler les marges avec le restaurateur, d'avoir un deal, de dire si vous vendez peut-être un peu moins cher, vous en vendrez plus et vous ferez plaisir à vos clients. Donc ça, c'est un credo de base. C'est toute une éducation. Mais il y a 20 ans ou 25 ans, on avait aussi cette problématique dans des grands groupes comme Nestlé. Bon, c'était lutter contre la carafe, qui, quand elle n'est pas agréable à boire, autant avoir une eau d'une bonne source, qu'elle soit minérale ou de source, et le moins cher possible, en fait, avec une marge raisonnable.
Moi, ça me va. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, le prix de l'eau dans les restaurants ne fait que monter et la qualité n'est pas forcément là. Donc, est-ce que vous avez enfin un marché qui s'ouvre très fort aujourd'hui ?
Nous, on apporte la qualité.
D'accord.
De belles eaux de source ou minérales. Souvent, ce sont des artisans, parce qu'on parlait tout à l'heure de volume.
Oui.
J'ai des sources qui font 400 000 bouteilles par an. Donc, ils n'épuisent pas la ressource. On a des endroits très préservés. Et quand on s'intéresse vraiment, c'est pour ça que je parlais de effectivement, il y a un côté intellectuel. Il faut se concentrer quand on déguste une eau et on va arriver à sentir les différences. On en est loin, mais moi, je travaille dans ce sens-là.
Et on va continuer à parler d'eau dans un instant avec les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui ont pas mal de réactions à nous faire parvenir. À tout de suite.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Twitter, hashtag Europe 1 ou le 39-21. À vous la parole maintenant. C'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1. Et en cette journée mondiale de l'eau, nous découvrons ces eaux minérales françaises, ces innovations françaises. Et vous êtes nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler maintenant pour poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Le standard est ouvert, c'est le 39-21.
Eh bien, on va commencer dès à présent. On vous écoute, Anissa. Quelles sont les premières réactions pour Thibault Lamarck, fondateur de Castali, Laurent David, fondateur des Eaux du Monde, et Michel Scotto, qui est le président de l'eau minérale du Pays d'Aix et qui commercialise depuis 3 semaines maintenant l'eau 808.
Alors, on a beaucoup de réactions. On a d'abord Guillaume qui nous apporte un témoignage. Il nous dit « Moi, je bois l'eau du robinet uniquement dans une bouteille gourde pour ne pas rejeter de déchets plastiques et boire de l'eau potable à très bon prix. » Voilà, bon week-end à vous tous. On a un message de Mister Sismic qui nous dit « Est-ce que vous auriez une idée pour les personnes sujettes à des calculs rénaux et qui ont besoin d'eau pauvre en calcium ? Que puis-je boire ?»
Ah, bonne question. Qui a la réponse ?
Une eau pauvre en calcium.
Mais alors, laquelle ? Vous en avez en tête comme eau pauvre en calcium ?
L'eau du robinet est finalement assez peu minérale. Hein. Et si on prend la minéralité moyenne de l'eau du robinet en France, alors ça va dépendre des régions.
Des régions,
si l'eau, l'eau bretonne, par exemple, enfin, l'eau du robinet bretonne, qui est paradoxalement de bonne qualité, elle est très douce.
Ou des eaux, la minéralisation, les minéraux sont indiqués sur les bouteilles d'eau. Donc, il suffit d'aller voir le calcium, Ca+, sur les bouteilles. Si c'est pauvre en calcium, vous pouvez y aller.
Justement, on est en train de parler de ce que contient la 808. Je vois Michel Scotto qui a sorti les lunettes et qui est en train de vérifier.
Alors, combien de A+ ?
La vôtre, elle est pauvre en nitrate. Hein. Il y a zéro nitrate.
Alors, voilà, carrément, en nitrate. Hein. Il y a zéro nitrate, donc ça signifie qu'il n'y a aucune trace de médicaments ni de pesticides. Vu que l'eau est très ancienne, elle est millénaire. D'ailleurs, on a mentionné sur la bouteille « pureté millénaire ». Et on est certain qu'elle a plus de 1000 ans. Donc, qui donne sa pureté et sa qualité. En ce qui concerne
le calcium, c'est ça, vous êtes en train de chercher.
On a 48 mg par litre de calcium. Voyez, on se situe un peu entre Evian et Volvic.
Bon, j'espère que ça répond à la question de notre auditeur sur Twitter. Ouais. D'autres réactions,
oui,
d'autres questions ?
Il y a un message pour Michel Scotto de Jean qui est un petit peu énervé. Il dit extraire de l'eau en France à Aix pour l'envoyer en Asie et l'environnement dans tout ça.
Bon, alors. On reprend Michel Scotto. Cette eau, pour l'instant, elle est distribuée en région PACA.
Oui, ça fait que trois semaines. Calmez-vous.
Sur la côte d'Azur, c'est ça.
Oui, on a comme cible principalement la côte d'Azur. Mais déjà, je peux signaler que cette eau n'est pas extraite, elle n'est pas pompée. Ça, c'est encore une de nos particularités. C'est un forage artésien. C'est-à-dire où l'eau monte par pression, on ne la pompe pas. Donc, c'est de l'eau qu'on récupère en certains endroits et on l'utilise.
À Méreuil, hein, en
Méreuil d'ailleurs. Et pour faire fonctionner notre usine, on a besoin de 5 mètres cubes heure, alors qu'on en a 40 mètres cubes en artésien. Vous voyez, on ne jette rien, on utilise tout, on cherche des clients. Et déjà en France, on aura du mal de vendre les 45 mètres cubes heure.
Bon, j'espère que ça répond à la question. D'autres réactions, d'autres questions,
encore
Anissa?
Une question de Marc, cette fois-ci pour Thibault Lamarque. Pourquoi ne pas proposer Castalie aux particuliers?
Ah.
Alors, on a démarré sur le B2B. Aujourd'hui, on n'est pas mauvais. Alors, on peut encore s'améliorer et on peut grandir. Donc, on va se concentrer sur le B2B.
C'est-à-dire que vous pensez peut-être un jour proposer quelque chose pour les particuliers?
Dans quelques années peut-être. En tout cas, le métier de Castalie, c'est vraiment de venir remplacer les bouteilles avec une solution qui fait 0 km et puis 0 déchet.
Eric, une réaction, une question?
Alors moi, je pense qu'il faut mixer tout ça. Un peu de Castalie, beaucoup d'eau extraordinaire et le plus proche possible. Et donc si on arrive à faire ça, je peux vous dire c'est génial, c'est de l'eau que vous avez proche de chez vous, c'est des sensations et du bien-être que vous pouvez trouver partout, c'est de l'emploi chez nous, c'est de l'emploi autour et c'est de la distribution autour. Je crois que si vous ajoutez tout ça, vous vous rendrez compte que ça fait aussi partie du terroir et ça fait aussi partie des envies que l'on a. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je crois ça.
Moi, je voudrais qu'on reparle de la bouteille en verre, parce qu'effectivement, vous êtes tous les trois venus avec des bouteilles en verre. C'est important, on voit, y compris aujourd'hui dans les rayons des supermarchés, de plus en plus de bouteilles en verre se développer. On sent qu'il se passe aussi quelque chose au niveau de la population française, cette fameuse prise de conscience, Thibault, dont on parlait tout à l'heure.
Mais j'espère, puisqu'on a vraiment besoin en fait, de changer nos habitudes. Le plastique, c'est quand même génial. Ça veut dire que si ce n'était pas génial, le plastique, on n'en aurait pas partout. Donc c'est facile, ça ne coûte pas très cher. Mais ce qu'on ne prend pas dans le... Ça ne coûte pas très cher, c'est tous les impacts qu'il y a derrière. Mmh.
Et ça modifie aussi le goût de l'eau. C'est pour ça que vous avez fait ce choix, Michel Scotto, Laurent David. Ça
modifie.
Ça a une incidence.
Vous prenez
hein.
la même eau, vous la goûtez dans une bouteille en verre et une bouteille en PET, vous sentez une légère différence.
C'est valable pour les sodas.
Le plastique peut être amélioré. Près de Bordeaux, à Saintes, vous avez une société qui commercialise du plastique bio. Donc biodégradable, donc il ne va pas polluer. Et ça, c'est peut-être l'avenir du plastique.
Je voudrais vous donner quelques réactions d'auditeurs qui me parviennent à l'instant. On a dans l'Ariège Patricia qui nous dit « Je consomme seulement de l'eau gazeuse parce que je n'aime pas l'eau plate. La seule eau plate que je bois, c'est la Vattviller, donc l'eau des Vosges. » On a Jean-Guy qui est à Saint-Brieuc qui nous dit « Question, tiens, pour les spécialistes, je souhaite savoir la différence entre une eau minérale et une eau de source. Elles ne doivent pas venir du même endroit. » Qui a envie de lui répondre pour lui expliquer la différence, Michel?
L'eau de source peut avoir des modifications dans sa composition. Une eau minérale doit avoir des sels minéraux constants, sinon elle devient eau de source simplement.
On a Lily qui nous écrit et qui nous dit « Je voulais savoir, qu'est-ce que l'eau, la Montroucou? J'ai une amie qui ne boit que ça. » Alors, la Montroucou, c'est vrai qu'elle est conseillée notamment pour
les bébés.
Bébés
ouais, pour les biberons.
Oui, parce qu'elle est pauvre en minéraux. Donc effectivement, il n'y a pas d'impact sur la santé, ni négatif. ni positif. Et pour ma part, je la trouve bonne en goût.
Elle, non, elle est en plastique. Elle est d'où, la Montroucou?
Peut-être centre
de la France. Ouais.
Moi, j'ai une petite fille, et quand elle a arrêté l'allaitement, plutôt que de lui donner de la Montroucou, on allait donner du lait bio. Et par contre, de l'eau du robinet.
De l'eau du robinet.
Le sujet, les gens ne se rendent pas compte.
Elle vient
en fait,
de Lacoune-les-Bains.
Les gens s'intoxiquent avec ce qu'ils mangent, pas avec ce qu'ils boivent.
Et je voudrais vous donner une dernière réaction, c'est celle de Pierrick qui nous dit « Moi j'ai créé un purificateur d'eau 100% français il y a 30 ans. Les bénéfices des minéraux sont contestés par certains naturopathes. Le verre contient parfois des traces de plomb. Attention, dit-il aussi, avec les bouteilles en verre, est-ce qu'il y a un effort aussi qui est fait sur le verre ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, on n'a pas d'accident particulier. Oui. Ça préserve
en tout cas le verre.
La bactériologie est excellente.
C'est un matériau qui est vraiment neutre. Mmh. C'est
vrai. Eric.
Moi j'ai une dernière question, cette fois c'est pour toi, et là c'est pour nos deux amis à côté. Est-ce que tu penses à faire aussi baisser le coût de l'amélioration de l'eau que tu arrives à faire? Est-ce que c'est dans ton esprit, ou est-ce que dans ton esprit c'est simplement vous pouvez me prendre moi, c'est mieux que les deux autres? Moi je veux savoir si à la fin, ton idée c'est d'amener une eau meilleure à la maison, le plus proche, mais avec un coût qui reste... très bas pour que tout le monde y ait accès.
Évidemment, on est une société à impact, donc on est labellisé économie sociale et solidaire. Mon métier, en fait, c'est de remplacer les bouteilles d'eau. Si je veux avoir beaucoup d'impact, j'ai besoin d'avoir des prix abordables pour avoir le maximum d'impact.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler eau sur Europe 1. Je précise, parce que vous l'aviez amené avec vous, Laurent David, qu'il y a brise. Là, c'est l'eau des nuages. Elle est
l'eau
directement récupérée. C'est au-dessus
sans aucun
des Canaries.
Sur l'environnement.
Donc à tester hein, si vous ne la connaissez pas. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler eau sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans deux minutes. Leur nom tient en trois lettres. MMV est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien aujourd'hui, et c'est un célèbre groupe hôtelier.
Ah oui, et cette entreprise, figurez-vous qu'elle rime avec vacances. Bonjour Jean-Marc Filippini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le président de MMV. C'est vous qui avez monté ce groupe il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, exactement.
Quand vous êtes sorti d'école, racontez-moi qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, de cette bande de jeunes qui sort d'école et qui a envie de monter ce projet. Comment ça vient ?
C'était lié à notre histoire personnelle.
C'est-à-dire ?
Quand on est étudiant, on est souvent animateur de centre de vacances. Ah. On travaille dans ce secteur-là. Et l'opportunité s'est présentée à ce moment-là avec un ami à moi. On était au lycée ensemble et on a démarré, après un an ou deux, à tourner un petit peu. On a démarré à ce moment-là par la reprise de bâtiments progressivement.
Et alors, comment vous faites justement en sortie d'école pour récupérer des bâtiments ? Vous travaillez avec les CE, avec les stations de ski ? Alors,
structurellement, MMV a toujours travaillé avec les comités d'entreprise, en particulier d'ailleurs de l'Île-de-France, et en garantissant un produit. Et donc progressivement, les comités d'entreprise nous ont fait confiance et l'entreprise s'est développée. Tous nos premiers sites étaient des chalets, les clients adoraient ça à l'époque. Les 50 chambres. Maintenant, c'est plutôt des hôtels-clubs de 150 chambres ou des résidences-clubs de 200 lots. Mais on a évolué avec la demande de nos vacanciers.
Et alors, vous prospérez comme ça, on va dire, jusque dans les
années
2000.
Il y a eu quand même
2000.
Des moments où on ne prospérait pas.
Oui, oui, non, mais disons qu'à un moment donné, vous arrivez et vous décidez de vendre à un fonds anglais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quel est le problème ? Pourquoi est-ce que...
Quand on est arrivé en 2000, donc on était en situation de ne plus pouvoir se développer, faute de fonds propres, et le marché était relativement bloqué. Et donc à ce moment-là, il y a eu une restructuration du secteur. On a vendu à un fonds anglais. Un an après, on a racheté, puisque le fonds anglais, c'est avec la crise d'Internet, était en train de nous liquider. Nous et les autres entreprises qu'il avait achetées à l'époque, je ne les citerai pas. Et donc, on a racheté à ce moment-là avec le soutien de notre banque.
Et depuis, vous avez peut-être un peu changé votre fusil d'épaule. Vous rachetez de nouveaux clubs, vous faites comment ?
Alors,
vous avez
changé de stratégie ? On s'est développé par la reprise de bâtiments qui existaient déjà. On a rarement fait construire. Et on a repris 4 Club Med, dont 3 que l'entreprise a acheté l'année dernière, même si elle est gérée depuis 15 ans. Donc les entreprises ont pu les acheter grâce au soutien de nos actionnaires, dont la BPI.
La BPI.
Qui est et Arkéa, qui s'appelle encore Crédit Mutuel.
Et alors,
et d'un fonds régional.
Vous avez parlé tout à l'heure des chalets, ça veut dire que vous êtes d'abord installé dans les stations de ski, mais maintenant vous êtes aussi sur le littoral.
On est essentiellement alpin.
Les destinations vacances.
On est essentiellement alpin, mais on commercialise des sites de bord de mer pour répondre à la demande de notre clientèle. On a arrêté la gestion de bord de mer, on ne gère plus que la montagne.
Que dit notre coach, Éric Léandre ?
Moi, j'aimerais savoir comment vous battez. En fait, c'est le rapport direct avec les comités d'entreprise qui vous évite d'avoir la concurrence d'Internet.
Alors maintenant, nous n'avons plus... les comités d'entreprise sont toujours fidèles à MMV et MMV au comité d'entreprise. Mais 60% de nos vacanciers sont des vacanciers directs.
Et donc, ils arrivent par où ?
Ils arrivent par notre site, par notre base de données. On a à peu près 40% de repeaters sur nos clients chaque année.
Et comment vous faites pour vous battre contre un booking,
c'est-à-dire
des
gens qui reviennent, Des gens qui reviennent régulièrement.
En dehors des répéteurs, comment vous battez contre
le booking ? On a un site internet, on diffuse, comme tout le monde, nos produits, sachant quand même que par contre, notre logique à nous n'est pas le moins 10 ans sur le prix. Notre logique à nous est le plus 10 ans sur le produit. Le moins 10 ans sur le prix, il y a trop de stock de toute façon, et puis ça ne nous intéresserait pas. Donc on
se
bat sur le produit.
Qu'est-ce que ça veut dire, moins 10 ans, plus 10 ans, c'est-à-dire ?
Quand vous êtes actuellement, quand vous allez sur internet, en général, vous commencez à regarder les comparateurs et vous regardez qui est le moins cher pour la station où vous voulez aller. Et donc, beaucoup de confrères qui ont construit il y a de très nombreuses années se basent sur le prix pour vous attirer à partir d'eux. Mmh. Notre logique à nous n'est pas celle-là. Notre logique à nous est une logique club. Donc, on offre des services, y compris dans nos résidences. Les enfants sont gérés, les ados sont gérés. On a, quand on le peut, dans les résidences neuves, on a des piscines. On a toujours des spas qu'on traite avec Payot. On a évidemment maintenant du wellness. C'est très tendance. On essaye de suivre la demande de nos clients, toujours de suivre la demande de nos clients. Ce qui veut dire d'ailleurs que nos tarifs ne sont pas les moins élevés du secteur.
Vous avez aujourd'hui 520 salariés. On ne compte pas évidemment les saisonniers. Hein.
Non, c'est équivalent temps plein, 520 salariés. Donc, on a 1200 saisonniers
1200,
en ce moment.
D'accord.
Et à l'année, ça donne 520 équivalent temps plein.
Et vous avez combien d'hôtels et combien de clubs aujourd'hui ?
Nous avons 20 résidences et clubs. Et résidence club, et nous programmons une cinquantaine d'autres produits.
Je disais entreprise qui va bien, parce que vous faites 66 millions de chiffre d'affaires, un peu plus d'1,2 million de bénéfices nets. C'est quelque chose progresse aujourd'hui.
Disons qu'on n'est pas nombreux à gagner de l'argent sur la montagne, mais il y a eu des périodes où on n'allait pas bien aussi. C'est aussi la vie des entreprises.
La montagne, c'est quelque chose qui est en train d'être repensé. Comment est-ce que vous battez sur ce secteur-là ?
La montagne, au jour d'aujourd'hui, on est positionné, nous, grâce au soutien de la Caisse des dépôts, qui est indirectement notre actionnaire par la BPI. La montagne est en train de se restructurer pour pouvoir avoir une offre qui est une offre qualitative et qui correspond aux besoins d'expérience de la clientèle et de nos urbains en général.
On n'a pas dit MMV, c'est mes meilleures vacances ?
C'est mes meilleures vacances et ça a été Mère Montagne Vacances.
C'est vous qui avez choisi ce nom-là ?
Non. Ça a été longtemps Mère Montagne Vacances, mais maintenant c'est repris par mes meilleures vacances. Voilà.
C'est l'entreprise qui va bien, merci. Merci beaucoup Jean-Marc Filippini d'être venu nous parler d'MMV aujourd'hui.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous avez du mal à vous endormir ? Eh bien, une appli vous aide à trouver le sommeil. C'est MyDodo avec un W et c'est la solution. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et maintenant, nous allons découvrir la solution du jour qui va nous rendre très zen, Raphaël.
Oui, c'est la journée du sommeil et parfois on a du mal à s'endormir. Une start-up a trouvé une solution pour nous aider justement à trouver le sommeil grâce à un petit boîtier. Elisabeth, ça s'appelle Dodo.
Oui, vous savez que le mal dormir, c'est-à-dire un sommeil non réparateur, ça touche aujourd'hui plus de la moitié des Français. Près de 8 Français sur 10 sont interrompus dans leur sommeil. Donc autour de la table, nous avons été confrontés à cela.
Oh oui.
Chaque nuit, et on met en moyenne, figurez-vous, 39 minutes à retrouver le sommeil quand on se réveille au milieu de la nuit. Parfois, les somnifères aident, mais ça peut rester momentané comme solution. D'autres personnes utilisent des techniques de relaxation. Et face à ce constat, eh bien, trois fondateurs ont mis au point un boîtier, une sorte de galet lumineux qui laisse échapper une petite lumière bleue dont l'intensité varie. Et c'est sur cette lumière que l'on va caler notre respiration. Ce boîtier, ça s'appelle Dodo, D-O-D-O-W. Et la promesse, s'endormir en 8 minutes.
Eh bien, on va essayer, Anissa, n'est-ce
Allons-y,
pas ? Bonjour Pierre-Luc Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dodo. Oui. Je crois que vous connaissez bien Europe 1, non ? Il me semble.
Oui, en fait... Quand on s'est lancé il y a 3 ans, c'était Anne Le Gall qui, dans la minute de l'innovation, a fait un petit passage sur nous. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ça qui nous a lancé. En fait.
Oui, c'est ça. On était pas au courant. C'est comme ça que ça a démarré.
Ouais. Un matin, on s'est levé et puis il y avait 100 ventes. Et pour nous, c'était énorme à l'époque. Et grâce à ça, derrière, on a eu des relais médias, des blogs, etc.
Oui, parce que vous dites sans vente, parce que vous avez eu du mal à vendre en France. Hein. Comment l'histoire a démarré? C'était pas si simple au départ.
Bah, c'était pas simple. Au début, on pensait qu'on allait pouvoir les vendre facilement en pharmacie. Mmh. Les pharmaciens étaient assez frileux.
Mais comment ça marche? Parce que voilà, c'était quoi votre pitch? Comment vous avez fait pour les vendre? C'est quoi le principe du galet?
En fait, je pense que la clé du succès, entre guillemets, de ce produit, c'est d'avoir bien expliqué aux gens pourquoi ça marchait.
Alors, c'est quoi?
Alors, en fait, donc on pose Dodo sur sa table de nuit, on le touche pour l'allumer, et il y a une lumière qui va se projeter au plafond. Donc, ça va faire un halo lumineux qui s'écarte et qui se rétracte. Comme
le
ça,
truc, c'est
que
dans le studio d'Europe 1, tout est lumineux et tout est en bleu. Oui. Donc,
j'ai essayé en même temps, mais ça ne fonctionne pas,
et
évidemment.
Donc,
c'est
quand le halo s'écarte, on va inspirer. Et quand le halo se rétracte, on va expirer.
C'est de la cohérence cardiaque.
Exactement,
un peu.
C'est de la cohérence cardiaque. Donc, on va suivre la lumière progressivement. On va partir de 11 respirations par minute. Et on va aller jusqu'à 6 respirations par minute, qui est un rythme beaucoup plus lent, qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ce rythme va favoriser la détente.
Donc, ce n'est pas un produit miracle. Hein. C'est plutôt une aide. Hein. C'est un outil pour s'endormir.
Oui, exactement. C'est vrai que ce n'est pas un produit miracle. Si on ne fait pas l'exercice, si on ne s'investit pas dans l'exercice, forcément, ça ne marchera pas.
Et la lumière bleue, me demande notre réalisateur Thomas.
Ce qui paraît,
est-elle
très
nocive?
Ouais.
Parce que là, on parle de la lumière bleue de nos smartphones, ce n'est pas la même.
Exactement. Alors, en fait, déjà, la lumière bleue de Dodo, on ne la regarde pas en direct dans les yeux, puisqu'elle est projetée au plafond. Donc, en fait, on regarde le plafond. Donc, ça s'apparente plus à une couleur. Et ensuite, l'intensité lumineuse qui est émise par Dodo est d'un lux, alors que l'intensité d'un écran est de 60 lux. Donc, ça ne suffit pas à inhiber l'hormone du sommeil qui est la mélatonine.
Que dit le coach?
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas connecté. Ça ne me traque pas. Ça permettrait d'essayer de dormir tranquille sans raconter toute ma vie et mon œuvre, si j'ai bien compris. Quoi. Donc, il n'y a pas d'app derrière. Il n'y a rien.
Il n'y a pas d'app. Il y a juste une petite plateforme sommeil qui donne des conseils pour ce qu'il faut faire avant, avant pour bien s'endormir. Mais non, l'intérêt de ce produit, c'est ça. C'est une démarche complètement low-tech.
Et tu en vends beaucoup?
Ben on a plus de 500 000 utilisateurs.
On peut faire un produit qui sert à dormir sans nous traquer, sans revendre nos données, sans que dalle. Et en plus,
et
ça marche. Mais
sans,
attends,
et sans chimie.
Mais moi, je vais mettre ça
et
demain
sur
ton.
Il est très joli sur la table de nuit. Il est joli, le galet.
C'est ça, et ça fait un très beau cadeau.
Combien il coûte et on le
49 euros. Alors, on le trouve en ligne sur notre site internet, mydodo.com. On le trouve aussi sur Amazon et chez Nature et Découverte, qui est un de nos meilleurs distributeurs en France.
On va commencer par acheter chez Nature et Découverte. Hein.
Ouais.
Pardon.
Et Amazon, vraiment, quand on n'a plus le choix. Non, mais il paraît que la plupart de vos ventes ont lieu aux États-Unis. C'est là-bas, on est davantage. Ici, on est un peu plus frileux par rapport à ce genre d'objets.
Non, c'est juste qu'il y a certainement beaucoup plus d'insomniaques là-bas. Donc,
Parce qu'ils sont plus nombreux, peut-être, tout simplement.
Ouais, je pense que c'est lié à ça aussi.
Mais 80% de vos ventes, quand même, là-bas.
Ouais.
Il y a d'autres explications, peut-être.
On a des bons partenaires qui nous aident. Et puis,
vous êtes combien aujourd'hui dans l'aventure Dodo?
On n'est pas beaucoup, on est à peu près une vingtaine.
Et vous avez d'autres produits à venir, les petits frères de Dodo?
Il y a des petits frères qui vont arriver d'ici peu de temps.
C'est quoi peu de temps?
J'espère d'ici 3-4 mois.
Bon, vous reviendrez nous en parler?
Avec grand plaisir.
Ça s'appelle Dodo, c'est la solution aujourd'hui. Merci Eric Léandre qui était notre coach.
Merci.
À lundi, Elisabeth. Nous parlerons, ça va vous passionner, réalité virtuelle, médecine, divertissement, formation. Elle investit, vous allez le voir, de plus en plus de secteurs.